Très ample à la fois, je vais essayer de ne pas les oublier. Pour votre première question, je crois que M. Messas en a dit l'essentiel, c'est-à-dire la différenciation des génies humains à l'intérieur de l'unité universelle est un bien, et c'est le ribou yatselem, comme nous disons en hébreu, et le fait qu'il y ait pluralité des manières d'être homme, est considéré par le récit biblique comme extrêmement positif. C'est le projet du Créateur. C'est le fait de la disparition de l'unité qui portait de façon positive cette pluralité qui est définie comme une catastrophe. C'est pourquoi je ne vous suis pas très bien lorsque vous dites que cette perte de l'unité avait pour objet d'aménager, de laisser la place à la messianité hébraïque. Ça, je n'ai pas très bien suivi. Non. Alors, je vais essayer de reprendre très brièvement cette analyse. Dans un premier stade, il y a un stade idéal. Il y a unité et pluralité des génies humains. Et c'est le développement de l'histoire humaine ainsi défini, qui était dès l'origine le projet messianique. Unité humaine et pluralité confraternelle des génies humains. C'est l'idéal messianique lui-même. Cet état a éclaté, a disparu. Alors, deux stratégies sont apparues. La stratégie des nations, que j'essaie de décrire comme une fatalité d'échec, en résumant peut-être trop, en essayant d'expliquer, en me basant bien sûr sur les sources du Talmud lui-même, que comme par définition, a priori, le récit de la Torah sait que les empires seront un échec, parce que le véhicule concret du rêve de l'universel est trop partiel, et parce que trop partiel, il est partial, et bien que le rêve soit sincère au niveau des idéologues de cet universalisme d'égoïme, la réalisation devient un échec, l'impérialisme. J'ai essayé, je l'ai répété 3 ou 4 fois, d'indiquer que ça ne signifie pas qu'à l'échelle individuelle, au sein des sociétés des nations, la sincérité et l'honnêteté absolue du rêve de l'universel est intacte. C'est ce que la tradition appelle les justes des nations. Il y a chez les nations des justes de l'universel. Mais les nations comme telles sont, semble-t-il, condamnées à l'échec fatal. Dès le début, on attend un Israël messianique, parce que l'on sait, dès le début du récit, que les nations livrées à leur propre force ne seront jamais capables que de créer des empires ou l'ONU, c'est-à-dire un parlement d'impérialistes en lutte. Et voilà ce que j'ai voulu dire. Il y a vraiment, dès l'origine, cette catégorisation, la messianité d'Israël en but aux empires. Je ne sais pas si vous avez lu Mein Kampf. Eh bien, dans Mein Kampf, Hitler dit très clairement ce qu'il voulait faire. Et il dit, s'il en est ainsi, je paraphrase, mais c'est l'idée, c'est ou les Juifs, ou nous, les nazis, pour 1000 ans. C'est très frappant de voir que dans le récit de l'histoire, lorsqu'un empire se constitue, deux choses apparaissent en même temps. Nous allons recoder ce que nous avons dit simultanément. Il s'agit d'empires, et surtout pour les derniers, qui se révoltent comme Nimrod à l'origine contre le Dieu unique créateur, et leur idéologie est toujours païenne, matérialiste, athée, et en particulier, ça éclate avec le nazisme et avec le marxisme qui suit. Et en même temps, l'ennemi, l'adversaire à détruire et à remplacer, c'est Israël et le peuple juif, systématiquement. Et comme je disais tout à l'heure, c'est tellement systématique que ça manque d'humour. Quel objectif de Babel, détruire l'identité hébraïque d'Ur Kasdim, l'envoyer dans la fournaise, les mots ayant leur sens terriblement simple, les fours crématoires de Nimrod. Le Midrash dit très clairement que c'est Nimrod qui jette dans le four crématoire la famille d'Abraham. Et que Abraham apparaît comme étant le rescapé de la Shoah de ce temps. Alors qu'est-ce que cet empire mésopotamien, qui est un grand empire de civilisation, a vu sinon cela? Que, étant donné le projet de l'empire, l'adversaire, c'est l'hébreu. Ainsi en Égypte, décrit tout à l'heure par David Messas. Lorsque, décidément, le pharaon n'est plus le pharaon de Joseph, le pharaon du temps de Moïse, c'est le pharaon de l'Empire. Alors que le pharaon du temps de Joseph, c'est un pharaon d'une société qui pouvait véhiculer le rêve messianique. J'ouvre une petite parenthèse. Vous avez dû être frappé dans le récit biblique que le rêve apparaît avec Jacob. À la génération de Jacob, on se met à rêver. Et qui rêve? Eh bien, le pharaon rêve. Et il dispose d'un Joseph qui non seulement sait rêver, mais sait décrypter les rêves. Une espèce de Freud anachronique. Et alors, qu'est-ce que c'est ça, un pharaon qui rêve? C'est un pharaon qui hébraïse. C'est le pharaon de Joseph. Mais lorsque le pharaon devient Melech Mitzrayim, Asher lo yada et Joseph, le pharaon impérialiste, alors qui est l'adversaire empêcheur de tourner en rond qu'il faut subjuguer et détruire? Rabban et Hakemalo Penirbe, Dafka, comme par hasard, le peuple de Joseph qui avait fait de l'Égypte ce qu'elle était, qu'on en verra dans les camps de concentration, et le vocabulaire est le même. Et ainsi pour la suite, et jusqu'à nous. Et par conséquent, je crois que les événements contemporains nous obligent de sortir un peu de cette pudeur traditionnelle que nous avons eue pendant des siècles, et de remettre en évidence la conscience très aiguë de cette catégorie. À partir du moment où l'humanité devient impérialiste, et je parlais tout à l'heure de ce colossal continent impérialiste de la nation arabe. Et lorsqu'on parle, par exemple, des Palestiniens en situation de Palestiniens, on oublie qu'ils sont l'apparence d'un géant colossal avec lequel est aux prises Israël et le peuple juif. Toute analogie n'étant que ce qu'elle est. Il s'agit de diagnostiquer les réalités comme elles sont, et avec pour objectif, avec des formulations politiques ou théologiques ou politico-théologiques, qu'elles viennent de Khomeini ou qu'elles viennent de Kadhafi, qu'ils avaient comme objectif détruire et remplacer. Je crois qu'il faut avoir cette lucidité-là. Je n'ai pas dit, je n'avais même pas à le dire, je n'avais même pas à le dire, qu'Amalek s'est successivement de notre temps, après avoir été Saint-Louis, ça peut être Hitler, ça peut être Staline, ça peut être Arafat. C'est pire que ça, c'est permanent. Okay? Mais il faut avoir la lucidité, comme vous avez dit, de diagnostiquer et d'être sur ses gardes. Alors maintenant, ceci dit, vous allez nous obliger à raconter l'histoire de Samuel, qui n'a pas osé détruire Amalek. Shaul, oui, mais Samuel qui dit, et si j'étais à ta place, je te comprends très bien, je n'aurais pas osé quand même. Okay? Samuel le prophète. Ça m'appelle un souvenir du temps de la guerre. J'étais soldat pendant la guerre dans l'armée française, et je me souviens, nous étions dans les trous de tranchées, et les énormes forteresses volantes américaines qui allaient détruire des villes allemandes, et donc massacrer des civils. Et alors, réaction d'un soldat des armées alliées dans un trou de tranchée pendant que les forteresses américaines allaient bien évidemment détruire des civils à Hambourg. Que fallait-il faire? Déserter? sa fille à Shalom Arshav de ce temps, ou faire que les alliés gagnent la guerre. Bon, chacun a à prendre la décision qu'il a à prendre dans son engagement individuel. Mais je crois que la chose la plus importante, c'est d'être lucide et de savoir diagnostiquer quel est l'interlocuteur du dialogue en question, et surtout s'il y a réciprocité. C'est tout ce que je voulais dire.
Si tu permets, un petit mot. La première remarque, c'est que tout de suite après cette génération de la dispersion, émerge Abraham. Et le premier ordre, si on peut dire, ou le premier conseil qui est donné à Abraham, c'est de partir, Lech Lecha. Et tout de suite après, on parle d'Eretz Israël. El Haaretz, Asher Areka. En quelque sorte, l'échec des civilisations et de la tour de Babel conduit à l'émergence d'Abraham et à l'émergence aussi de l'existence de la terre d'Israël, de Eretz Israël, qui est la promesse qui est faite à Abraham. Les deux choses sont absolument liées l'une après l'autre. Et en réalité, si on voit le texte plus précisément, je pense que le problème entre Israël et les nations est un problème de ciel, du ciel. Puisque le texte, vous l'avez cité tout à l'heure, on va construire une tour au Migdal, Verosho Bashamay. Tout à l'heure, j'ai insisté sur le mot Benas et l'Anushem. On peut parler Verosho Bashamayim, dont la tête se trouve au ciel. Et d'ailleurs, si on peut parler de la sanction, Dieu dit Hava Nerda. Puisqu'ils ont voulu monter au ciel, moi je vais descendre et je vais les faire redescendre du ciel dans lequel ils ont voulu s'installer. En d'autres termes, et je continue toujours mon commentaire tout à l'heure, la préoccupation des civilisations, comme la préoccupation de n'importe quel homme, c'est le dépassement de la mort. Comment vaincre la mort? Comment vivre dans l'éternité? Et comment, en quelque sorte, dépasser l'angoisse du néant qui nous est proposé par la mort? Ça, c'était la philosophie qui les préoccupait. Et toute l'histoire du nom, Benaaselanu Shem, dit le Shem Ishmoel, est une recherche d'une perpétuation du nom dans l'éternité pour vaincre l'idée de la mort. Or, toute illusion qui consiste à faire croire un homme ou une civilisation dans une sorte de pseudo-éternité et qui couvre en quelque sorte la réalité du passage éphémère du temps que nous avons à vivre, eh bien, peut créer toutes les illusions et toutes les tensions. Voilà. Mais la préoccupation essentielle était l'idée de ce dépassement. Or, ce dépassement ne peut se faire que dans la mesure où on va monter au ciel pour vivre dans l'éternité. Et Abraham va révéler l'idée que la vie dans le temps, la vie qualitative dans le temps, est une proposition qui va nous permettre de vivre l'éternité dans le temps que nous avons à vivre. Or, le conflit que nous avons, à mon avis, aujourd'hui, entre l'ensemble des nations et Israël, autrefois c'était divisé d'un côté Ishmaël, de l'autre côté Esav, mais aujourd'hui, je crois qu'ils se sont liés. Ils se sont liés les uns contre les autres pour isoler complètement Israël, et c'est un bien.
Toutes les exceptions près.
Presque, on est presque isolés. Alors, cet isolement fait que c'est les temps messianiques, à mon avis. Enfin, à mon avis, c'est pas les miens. Mais qui font, d'ailleurs, on dit que Gog et Magog, la gématria de Gog et Magog, c'est 70, que le jour où les 70 ensemble se réuniront pour isoler Israël, c'est ce qui se fait un petit peu ces derniers temps, eh bien, c'est une porte ouverte vers le Mashiach. Le problème est que, est-ce que cette terre d'Israël peut être une terre de la présence et de la vocation de Dieu? Est-ce que le ciel peut être vécu en Eretz Israël? Ou bien est-ce que Eretz Israël peut être banalisé pour être comme n'importe quel pays et quelle civilisation? Eh bien, c'est toujours cette tension entre un Israël comme les autres, ou un Israël à la fois comme les autres et différent des autres, qui est le problème, effectivement, du conflit qui existe entre la génération de la dispersion de Babel et la génération d'Abraham.
D'Abraham, et ça dépend des Juifs. Mais je voudrais, une minute, avant de reprendre votre question, ajouter une indication exégétique, puisqu'on a parlé, c'est moi qui ai parlé d'ailleurs de Khomeini. Dans ce chapitre du Ner Mitzvah du Maharal, où il analyse très profondément ce déroulement que j'ai essayé de schématiser tout à l'heure, les civilisations se succédant les unes après les autres, les grandes civilisations de l'histoire pour nous, c'est donc Babel, Paras, Madaï, Yavan, Rumi, et Israël traversant tout cela avec sa fidélité à l'expérience, à l'espérance du Malchut de Yemot HaMashiach, qui ne sera pas, qui sera le cinquième, qui ne sera pas un parmi les quatre empires que nous avons décrits. Le Maharal pose la question suivante. Et où se trouve Ishmael dans ces quatre empires, les Arba Malchuyot, dont parlent toutes nos sources? Aucune allusion à l'empire d'Ishmael. Alors, le Maharal donne deux explications. La première est classique, je la rappelle. C'est que Ishmael a ses propres bénédictions, son propre Malchut, souveraineté politique, n'usurpe pas le Malchut d'Israël. Ce qui n'est pas le cas pour Babel, Paras, Yavan, Romi. Il se substitue au Malchut d'Israël dans la recherche de l'universalité. Il a ses propres bénédictions, c'est un sujet pour lui-même. Et il ajoute, le Maharal, et ça m'est toujours resté un mystère. Le Maharal dit, et il me semble que l'on peut dire que le Malchut d'Ishmael, c'est Paras, c'est la Perse. Mettons-nous au temps du Maharal, il y a quelques siècles. Le Maharal ne vivait ni parmi les Arabes, ni parmi les Perses. Il n'avait pas entendu parler de Rouménie. C'est extrêmement impressionnant. Je peux vous lire le texte, si vous voulez, je l'ai sous les yeux. Comment le Maharal pouvait, dans une telle prémonition, dire que c'est lorsque Ishmael joue le rôle des empires, c'est Paras. Jusqu'à ce qu'il y a assez récemment, j'ai retrouvé dans le Yalkut Shimoni, je vous donne la référence, Yalkut Shimoni, qui est une recension du Midrash, sur le livre dit du prophète Isaïe, premier verset du chapitre 60, un enseignement de Rabbi Yitzhak qui dit qu'à la fin des temps, il y aura une guerre entre le roi de Perse et un roi arabe et que l'humanité entière entrera en transe. Et que Israël aussi aura peur, et que Dieu s'adresse à elle pour leur dire « Je m'occupe de vous, n'ayez crainte. » Si vous voulez, je peux vous lire le Midrash. Et il y a là des convergences de textes qui sont assez impressionnantes. Et d'ailleurs, lorsque la guerre entre l'Irak et l'Iran a éclaté, un député à la Knesset, le rabbin Menachem HaKohen, du Maharach d'ailleurs, s'est payé le luxe de susciter une petite émeute dans le buffet de la Knesset en citant ce texte. On a arrêté la séance au Parlement pour lire ce Midrash. Et cela aussi s'inscrit dans l'ordre de cette problématique de l'impérialisme d'un côté et de la conception messianique propre à Israël avec toutes les rivalités qu'elle a déclenchées de l'autre. En ce qui concerne le cosmopolitisme, je voudrais surtout vous donner la parole, mais ce que je voulais dire me semblait assez clair. C'est que un des, comment dit-on en français, quand quelque chose dérive, un des dérivés, non, ça a un autre sens, quand quelque chose se dévoie de la fidélité juive au rêve de l'universel, risque d'être le cosmopolitisme. Et je pense que tant dans la communauté juive de diaspora que dans la société israélienne, c'est peut-être là la clé de l'explication de cette invraisemblance, que cette démission d'identité vient de ce qu'on a basculé dans l'identité du juif cosmopolite et qu'on n'a pas perçu ce rendez-vous de l'histoire qui, nous restaurant notre identité nationale, nous restaure le véhicule authentique de notre projet de l'Israël lié à l'universel humain. Voilà ce que je voulais dire en quelques termes. Nous aurons d'ailleurs à retrouver ce sujet dans notre forme dans les soirées qui viennent, en particulier, je crois, avec l'analyse du rabbin Bernheim et celle du professeur Rosner, et probablement aussi avec Robert Mizrahi. Oui, vous allez voir. Je crois qu'il a été perçu, sinon reconnu à sa qualité, par l'universel humain. Je crois qu'un phénomène humain aussi considérable que celui de la chrétienté d'un côté ou de l'islam de l'autre, sans parler d'énormément de mondes humanistes dont les intuitions de départ sont quand même de la Bible, quelle que soit la manière dont ça se dénature en langage philosophique, c'est la preuve que cela a été diagnostiqué, qu'il y a un cas particulier dans l'aventure des histoires nationales, c'est Israël. Mais Ishmaël, de son côté, Esav de l'autre, a intégré la parole de la messianité dans une réalité impérialiste. Je reviens à la remarque du grand rabbin Jaïs tout à l'heure. C'est que ça s'est institué en religion universelle, en politique universelle, de type fascisme, marxisme, nazisme, etc. Et ça a basculé dans l'impérialisme. Au lieu de rester universaliste dans le sens biblique, et inutile de revenir encore sur les définitions de détail, je crois que le chemin que nous donne la Bible est à la fois impressionnant de simplicité et massivement impressionnant de gravité. C'est cette histoire qui se joue dans le monde à travers l'histoire des civilisations telle qu'elle est perçue par la conscience d'Israël. Cela a été entendu chez les nations, mais voilà ce qui en est résulté. Et alors nous sommes aux prises, semble-t-il, de manière extrêmement aiguë. J'oserais pas dire messianique parce que ça risquerait de poser des questions de date, de signes, donc j'emploierai pas ce vocabulaire un peu trop mystique. Ça ne veut pas dire que ces dates, ces signes, ces significations n'existent pas, c'est un autre sujet d'étude. Mais je crois qu'un juif contemporain qui n'aurait pas le courage de ramasser dans sa perception de lui-même cette histoire universelle telle que nous la vivons dans la ponctualité quotidienne ne peut qu'être dans le désarroi. Il faut, pour arriver à tenir le coup, si j'ose dire, devant ces interpellations, par exemple ce que Bernard a cité tout à l'heure, Israël pourra-t-il survivre? Un point, c'est le point qui disait ça. Point d'interrogation, c'est tellement énorme que on ne se rend pas compte, hein, voilà, dans un journal. Pour pouvoir résister, non pas survivre, mais résister à ces agressions répétées qui nous mettent dans le désarroi et personnel et communautaire, il faut simplement se brancher sur notre carte d'identité. Je veux dire, il n'y a rien de changé depuis 6000 ans, sauf que c'est la même chose.
Eh bien, il me reste à vous inviter à la conférence de M. Rosner demain soir. Tout, tu veux...
Pardon ?
J'aurais une question. Le rêve de l'espéranto, langue universelle, serait-il voué à l'échec dans la pratique ?
Mais non, voyez-vous, ce sont... Et c'est à mon sens, d'ailleurs, il me semble, j'ai oublié le nom, mais c'est un juif qui a...
Zalmanov.
Oui, Zalmanov. Il me semble que ça va dans le même sens. C'est-à-dire, c'est voué à l'échec uniquement parce que c'est pas l'hébreu. J'y peux rien, c'est comme ça. Mais c'est un rêve hébraïque. Et encore une fois, ces coïncidences ne peuvent être que frappantes. Il faut les prendre comme des coïncidences. Le fait que le chant national d'Israël, c'est la Hatikva, et que cette langue s'appelle l'espéranto, ça fait très sioniste, tout ça. Très bien. Alors, on se donne rendez-vous donc demain matin et demain soir.